Bonjour à tous et bienvenue à ce septième et dernier cours de l'année qui va être inversé puisque nous allons commencer par le séminaire de Lionel Henrich qui est ici et ensuite continuer par un cours un peu court et puis une discussion. Lionel donc a travaillé ici avec moi après avoir fait sa thèse qui était consacrée à la réalisabilité en logique classique, un sujet de logique et de Koch. Et qui était donc quelque chose qu'on ne va pas raconter ici, parce que c'est un peu différent. Et je lui avais invité comme post-doctorant sur un poste d'ATER au Collège de France pour travailler sur un sujet auquel je tenais beaucoup, qui n'est pas tout à fait fini, mais qui a beaucoup avancé, qui est de faire un vrai livre. C'est-à-dire que le livre que j'ai fait, qui s'appelle « The Constructive Semantics of Pure STL », qui a été disponible sur le web depuis 1998, donc il n'est pas tout neuf, qui a été amélioré jusqu'en 2003. Ce livre, en particulier grâce à Olivier Tardieu, dont j'ai déjà parlé ici, ce livre ne contient aucune preuve. Et je sais bien que tout ce qui est dedans est juste, mais entre savoir et prouver, ce n'est pas tout à fait la même chose en mathématiques. Et donc, je n'avais pas envie d'écrire ces preuves. Olivier Tardieu en a fait une partie, mais pas de tout. Et je n'avais pas envie d'écrire ces preuves parce que j'étais sûr que le fait de les écrire n'allait pas suffire à ce qu'elles soient justes. Et donc, l'idée est venue de le faire avec Koch. Moi, j'ai suivi ma première activité en programmation sérieuse, date de 1972. C'était ma première rencontre avec Robin Milner, qui est devenu prix Turing et qui a fait énormément de choses, et qui avait développé le premier assistant de preuve, LCF, au début des années 70. Et j'ai donc prouvé Bubble Sort en LCF. C'était une aventure, et Bubble Sort, maintenant, ce n'est pas très compliqué. Et donc, on a aussi vu les choses se faire en Koch, en particulier ce qu'a fait Georges Gontier sur les théorèmes de maths, et ce qu'a fait Xavier Leroy sur CompCert, le compilateur C vérifié, dont j'ai parlé, le C-Lite vérifié, dont j'ai parlé déjà ici, pas mal. Et donc, j'ai dit à Lionel, est-ce que tu veux venir pour faire ça? Il m'a dit oui, et on a commencé, et donc... vous allez voir ce que ça donne. Ce n'est pas tout à fait fini, mais je crois que c'est vraiment sur la fin du chemin.
Oui.
Et que le livre paraîtra avec aucune preuve faite à la main. C'est un peu l'intention de la chose. Voilà, donc Lionel, à toi.
Merci. Donc effectivement, les travaux que je vais vous présenter, c'est ce que j'ai fait donc, quand j'étais donc, au Collège de France de 2014 à 2016. Ah oui. Donc, très rapidement, je suppose que le début, au moins, tout le monde a déjà entendu parler suffisamment d'STL, donc j'irai assez vite. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un langage synchrone flot de données. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Par synchrone, ça signifie que le temps est divisé en instants, donc le calcul est fait et découpé en instants, et à l'intérieur d'un instant, tous les calculs sont supposés instantanés. Du moins, on fait le raisonnement en pensant que le calcul est instantané. Et flot de données, c'est-à-dire que la façon dont on programme, notamment vis-à-vis de l'interface graphique, le focus, l'accent est mis sur le déplacement des données entre les différents composants. Alors, vous avez vu la semaine dernière, donc, présentée par Timothy Bourg, qui est dans l'assistance, une autre preuve Koch d'un compilateur d'un langage synchrone, Lustre. Alors ici, la grosse différence d'STL par rapport à Lustre, c'est qu'ici, on a beaucoup plus d'accent sur le contrôle, et on verra que ça a davantage une saveur impérative comparée à Lustre, qui était plus fonctionnel et déclaratif. Et donc pour illustrer mon propos, donc dans la suite, je prendrai deux exemples de manière récurrente. D'une part, donc quand il s'agira d'illustrer des règles de la sémantique, je prendrai la règle pour le test, donc ifs and else et plus spécifiquement then, et pour les programmes, donc l'un des premiers programmes qu'on peut écrire en STL, Abro, que je vais représenter dans la suite. Donc qu'est-ce que je cherche à faire ? Mon objectif, c'est de vérifier formellement la compilation d'STL vers les circuits. Donc c'est basé sur le livre, donc, livre web de Gérard Berry, qui est disponible sur la page du cours, qui est intitulé « La sémantique constructive d'STL pure ». Le schéma de compilation ici va être modulaire, on verra que ça c'est absolument crucial quand on veut faire de la preuve, avoir la structure sur laquelle on puisse s'appuyer sur le raisonnement. Le principe est le même que celui de CompCert, donc CompCert c'est le compilateur C ou C-Lite, comme vient de le préciser Gérard, qui a été essentiellement développé par Xavier Leroy, qui est présent également. Alors la différence c'est qu'ici, dans CompCert, on raffine les sémantiques, c'est-à-dire qu'on a le droit d'être de plus en plus précis, puisqu'il y a certains comportements au départ qui sont laissés au choix, donc par exemple, en particulier l'ordre d'évaluation. Ce ne sera pas le cas dans STL. Donc ici, dans STL, on veut vraiment montrer que la sémantique du langage source et la sémantique à l'arrivée sont vraiment exactement les mêmes. Donc très rapidement, Donc pour ce faire, je vais utiliser l'assistant à la preuve Coq. L'élément qui caractérise Coq, c'est qu'il est basé sur la correspondance Curie-Ward, c'est-à-dire que les preuves et les programmes sont vraiment la même chose dans le système, et on peut exprimer les deux très facilement, ils sont complètement interchangeables, une preuve est un programme. Et donc il y a eu différents résultats assez importants. Donc, en premier, donc, le théorème des quatre couleurs, puis le théorème de Faith-Thompson sur la classification des groupes d'ordre impair, par Georges Gontier, voilà, merci, évidemment. Et donc, comme j'ai mentionné précédemment, Compsert par Xavier Leroy. Alors, ces travaux, donc je vais me limiter à un cadre assez spécifique. On va compiler que vers des circuits, donc on verra que la compilation vers du logiciel, en fait, des problèmes assez différents, notamment le problème de la schizophrénie qui est assez central ici, n'apparaîtra pas du tout. Je ne vais pas considérer les données. Alors, ce n'est pas une vraie restriction dans le sens où rajouter les données à ce travail ne sera pas très difficile. La vraie difficulté de la compilation, c'est d'assurer que le contrôle a toujours du sens. Et enfin, à un moment, je déciderai de ne plus traiter la réincarnation. Donc, on verra, à un moment, j'abandonnerai une des constructions, la boucle. Donc, la syntaxe des stérel. Donc, je vais prendre ici la syntaxe habituelle qu'on utilise pour programmer. Donc, rapidement, donc, nothing, comme son nom l'indique, ne fait rien. Pause, attend à l'instant courant et terminera à l'instant d'après. Emit, émet un signal. Excite, lève une trappe qui est ensuite rattrapée par l'instruction trappe. Test de signal, donc si S est présent, on exécute P, si on exécute Q. La suspension revient à geler, lorsque S est présent, on va geler l'exécution de P. La séquence, la composition parallèle, la boucle. Alors notez qu'il n'y a pas de condition pour sortir d'une boucle. Donc pour sortir d'une boucle, on va utiliser les exceptions, les trappes, et donc les rattraper à l'extérieur. Et enfin, la déclaration de signal local. Alors en fait, cette écriture est très explicite, mais elle prend un peu beaucoup de place. Donc on verra que dans certaines des règles, j'utiliserai une écriture un peu plus condensée. Et donc les deux seules règles pour lesquelles vous avez besoin de connaître l'écriture condensée sont à droite. Donc vous avez le test ici, et la déclaration de signal. À partir de ces constructions primitives, on peut en fait construire un grand ensemble de constructions dérivées, qu'on appelle des macros. Et donc je vous en donne ici trois exemples. Alt qui ne fait rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pose, et à la fin de l'instant, il recommence et il rattend. Await S qui va attendre que le signal arrive. Donc si le signal est absent, il fait une pause, puis la boucle nous fait recommencer à l'instant d'après. Lorsque le signal est présent, on sort de la boucle en levant une trappe qu'on rattrape à l'extérieur. Donc, tant que le signal est absent, il va faire des pauses, et à l'instant où le signal est présent, il va terminer. Abort P when S va avoir le même genre de comportement. On va exécuter P et en même temps surveiller l'exécution de S, et au moment où S devient vrai, on interrompt P. Donc, il fonctionne à peu près comme await, dans le sens où la boucle qu'on a ici est exactement la même. Simplement, en parallèle, on va exécuter P. Donc, si P termine, on interrompt toute l'instruction. Si S arrive pendant que P est en train d'exécuter, le exit là va interrompre l'exécution de P.
C'est pas tout à fait vrai, c'est des immédiates. Ça.
Oui, je ne veux pas rentrer dans le détail entre immédiates et non immédiates, mais je simplifie un petit peu, effectivement. Et donc, à partir de ces trois constructions, on peut construire donc le programme Abro, qui est en fait une forme de Hello World en STL, qui permet de donner un exemple de programme qui, à la fois, montre les spécificités des STL et est suffisamment simple. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? La spécification donc, de ce programme, ça va être, on va écouter deux signaux A et B, et lorsqu'on a reçu les deux, pas forcément en même temps, on veut émettre un signal O. Donc, cette partie-là est facile. On va écouter en parallèle A et B. Lorsque ça a été effectué, on émet O, puis on s'arrête. Mais on veut aussi pouvoir remettre le programme à zéro lorsqu'un autre signal R est reçu. Donc, pour remettre à zéro, on va interrompre ce qu'on est en train de faire, c'est la fonction du abort, puis remettre une boucle pour relancer le programme. Je veux faire des preuves de sémantique, donc il va falloir que je commence par préciser quel type de sémantique je vais utiliser. Donc je vais utiliser des sémantiques opérationnelles structurelles, donc par Plotkin. L'idée ici, c'est d'avoir une définition mathématique du comportement des programmes qui va être basée sur la réécriture. Donc, on va avoir un programme initial, il va se passer quelque chose qui va le transformer. Donc c'est une sémantique opérationnelle dans le sens où une transition dans cette sémantique correspondra à ce qui se passe au cours d'un instant du calcul, et elle est structurelle puisqu'elle va être définie selon la structure du programme. Donc les règles sur les différentes sémantiques, à une exception près, auront toujours la même forme que je présente ici. On a un programme P, un environnement d'entrée E, Et après l'exécution, on va produire un programme résidu qui va être P', un environnement de sortie E' et un code de retour K. Alors le code de retour, ça va nous dire quel a été le comportement de P au cours de cet instant. Donc 0, le programme est fini. 1, il a fait une pause, il reprendra son exécution un instant d'après. Et 2 ou plus, il y a une trappe qui a été levée qui devra être attrapée à l'extérieur. Les ensembles, les environnements E et E' ici associent à chaque signal sa valeur, entre guillemets, un statut. Mais comme on verra que ce sera utile pour la sémantique constructive par la suite, on a en fait 3 valeurs possibles. Présent, noté plus, absent, noté moins, et une valeur où on ne sait pas encore ce que c'est, donc elle est inconnue, qui sera notée bottom. Voici la chaîne de toutes les sémantiques dont je vais parler. Et on verra que sur ce chemin-là, on finira par arriver quasiment jusqu'à la sémantique des circuits. Je ne parlerai pas en détail de la sémantique des circuits, puisque Gérard l'a déjà fait, et je n'ai rien à rajouter sur ce thème-là, mais je présenterai en détail toutes les autres. Donc tout d'abord, sémantique cohérente et constructive rapidement. La sémantique cohérente est basée sur la loi de cohérence, c'est-à-dire un signal va être présent si et seulement s'il est émis. Donc je vous ai dit que plutôt que donner un grand ensemble de règles, j'allais l'illustrer essentiellement sur le ifs and else et également là sur le signal. Donc pour un test, on va regarder la valeur de S dans l'environnement. Donc s'il est présent, on exécute la branche then, donc le P. Effectivement, on fait le calcul de P et le résultat, c'est ce qui est produit par P, donc à la fois sur le résidu de programme mais également sur les signaux émis et le code de retour. Symétriquement, quand le signal est absent, c'est Q qui prend la main. Pour la règle de signal, quand on crée un nouveau signal, il faut qu'on arrive à déterminer sa valeur. Donc, la loi de cohérence nous dit que le signal va être présent si et seulement s'il est émis. Donc, on commence par faire une hypothèse, on choisit, soit il est présent, soit il est absent. Donc, si on choisit qu'il est présent, donc on va faire l'exécution de P en supposant qu'il est présent, et à la fin du calcul, on vérifie qu'effectivement, dans les signaux qui ont été émis par P, S était bien émis, était bien présent. Symétriquement, lorsque P est absent, on vérifie qu'à la fin, il n'a bien pas été émis. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que dans ces règles-là, la validation de l'état du signal se fait a posteriori dans un certain sens, c'est-à-dire que après qu'on a fait le calcul, on vérifie que l'hypothèse qu'on avait faite sur sa présence correspond bien à son émission. Donc ce qu'on peut dire de cette sémantique et ses deux gros défauts, c'est d'une part qu'elle est non déterministe, mais ça a été corrigé effectivement donc, par Olivier Tardieu dans sa thèse, mais également qu'elle est mal justifiée dans le sens où la raison pour laquelle le signal S est émis dans la règle de signal local est faite a posteriori. On n'a pas de bonne raison valide avant l'exécution pour choisir. Et donc l'intérêt de la sémantique constructive est de corriger cette absence de justification. Donc la sémantique de constructive va éliminer ces problèmes de causalité et non déterministe. Donc en particulier, elle va interdire le programme if then, then emit S, else nothing, qui en fait va émettre S uniquement s'il est déjà présent. Néanmoins, la raison la plus profonde pour vouloir utiliser davantage la sémantique constructive par rapport à la sémantique cohérente, c'est qu'elle est beaucoup plus proche de ce qui se passe dans les circuits, c'est-à-dire que la propagation électrique dans les circuits synchrones va exactement correspondre au calcul en logique intuitionniste, et c'est ce que va implémenter cette sémantique-là. Donc la sémantique constructive et cohérente sont quasiment identiques, la seule différence se fait au niveau de la règle signal, et donc pour utiliser la règle sig plus qui nous dit que le signal est présent, on doit d'abord s'assurer que le signal doit être émis. Et symétriquement, pour utiliser la règle sig moins, pour supposer qu'il est absent, il faut qu'on montre qu'il ne peut pas être émis. Donc, comment ça se traduit? C'est qu'on va avoir deux fonctions, must et can. Et avant d'exécuter, quand on cherche à déterminer la valeur du signal S, on va commencer par supposer ne pas donner de valeur à S. Donc, S a un statut inconnu. Et dans le programme P, dans cet environnement auquel on a rajouté S sans qu'on ait de valeur, on va essayer de voir est-ce que on est capable de déterminer que S va être émis. Si oui, dans ce cas-là, on va faire la transition en mettant S à vrai, puisqu'on sait qu'il devra être émis. Symétriquement, si on peut montrer que S ne peut pas être émis, alors on pourra affirmer qu'il est absent. Alors, par rapport à la sémantique cohérente, la différence ici, c'est que ces deux tests, donc sur must et can, sont faits a priori. C'est avant de faire l'exécution du programme P, qu'on va déterminer le statut que S doit avoir. Et donc, en fait, cette justification-là va se faire sans faire d'hypothèse sur la valeur de S. D'ailleurs, une petite coquille ici, j'aurais dû rajouter le signal S également là. Donc, pour illustrer ça, donc, on va voir comment l'exécution d'Abro se comporte. Alors, comme ici, il n'y a pas de signal, c'est la même chose en sémantique cohérente et constructive. Donc, je fais pour ça que j'illustre qu'une seule fois. Donc, on reçoit un signal B en entrée. Donc, quand on exécute une boucle, on commence par recopier son corps devant. On est en train d'attendre à la fois A et B. Ici, B est reçu, donc cette partie-là va être effectuée et transformée en nosing. L'instant d'après, si on reçoit A, dans ce cas-là, comme on était en train d'attendre sur A, la partie A va être reçue, donc elle va devenir nosing. Ici, on a terminé le parallèle, donc on va l'éliminer, passer à l'émission de O et s'arrêter sur l'instruction halt. L'instant d'après, si on reçoit B, ben rien ne va se passer puisqu'en fait, on est bloqué sur ce point-là. Si ensuite on reçoit R, donc R va déclencher le abort, tuer toute l'exécution avant de la boucle, puis on recommence, donc on replace tout le corps de la boucle avant et on se retrouve à nouveau en train d'attendre à la fois A et B. Enfin, dernier instant, si on reçoit simultanément A et B, on va à la fois terminer les deux attentes, émettre O et s'arrêter sur Alt. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sémantique constructive ? Tout d'abord, elle préserve les signaux déclarés. C'est-à-dire, formellement, si vous avez une transition dans la sémantique constructive, alors, dans l'ensemble des signaux que vous pouvez lire et les signaux que vous pouvez émettre, a le même domaine. Donc, on parle des mêmes signaux. Alors ça, plutôt qu'une vraie propriété de la sémantique, c'est plus une façon de s'assurer que la gestion des signaux locaux est bien faite. Il n'y en a pas qui s'échappent ou qui disparaissent en cours de route. Si initialement, on a tous les signaux ont une valeur présente ou absente, on n'a pas d'inconnu, alors en résultat, on n'aura pas d'inconnu non plus. Ce que ça signifie, c'est qu'en fait, cette sémantique constructive qui contient donc les valeurs inconnues peut se voir qu'en fait comme un raffinement de la version plus naturelle où les signaux auraient soit la valeur vraie ou faux. Troisième propriété, si le code de retour n'est pas 1, le résidu est nothing. Alors qu'est-ce que ça signifie intuitivement ? Si le code est 0, le programme a terminé, donc il n'y a plus rien. Si le code est 2 ou plus, on a levé une trappe qui va interrompre le calcul du programme, donc il n'y a plus rien à exécuter dans les deux cas. Alors la réciproque est malheureusement fausse, c'est-à-dire on a envie de dire que le résidu sera nothing si et seulement si le code de retour n'est pas 1, mais pause est l'exception. Si vous exécutez un pause, vous avez un code 1, et ce qui vous reste à faire, c'est nothing, vous avez quand même un nothing. On verra que les sémantiques suivantes corrigent ce problème-là. Elle est déterministe également, donc si vous avez deux transitions en partant d'un même programme et d'un même environnement d'entrée, vous allez obtenir les mêmes programmes en sortie, mais également les mêmes signaux émis et les mêmes codes de retour. Donc ici, pour des raisons de place, j'ai mis que les programmes, les résidus sont les mêmes, mais vous allez avoir la même égalité entre E1' et E2', et entre K1 et K2. Enfin, le proverbe Esterel que Gérard vous a donné au cours 3, il me semble, « if must do, if no can, no do », peut également être exprimé formellement, de cette façon-là. Si on doit émettre un signal, alors dans ce qu'on a fait, effectivement, le signal S a bien été émis. Symétriquement, si le signal ne peut pas être émis, alors quand on fait une transition, il est bien absent dans les signaux résultats. Donc ce que ça nous dit ici, c'est qu'en fait, must va être dans ce qui est mis, on a au moins ce qui est dans must et au plus ce qui est dans can. Mais il reste quand même un écart entre les deux. Et en fait, la question, c'est est-ce que cet écart est important ou non ? En fait, on peut démontrer qu'il n'y a pas d'écart. C'est-à-dire qu'on peut renforcer cet énoncé-là de la façon suivante. Donc dès qu'on a une transition dans la sémantique constructive, alors le signal est émis si et seulement s'il est dans must, et il n'est pas émis si et seulement s'il n'est pas dans can. Si on combine ça avec le fait que quand on part d'un environnement sans inconnu, on n'a pas d'inconnu à l'arrivée, on a envie de dire qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'écart entre les deux. Et effectivement, si on a une transition dans la sémantique constructive, alors les deux fonctions must et can coïncident. Et on peut même avoir un résultat encore plus fort, c'est une caractérisation des transitions possibles. Et toutes ces propriétés, donc on va avoir une transition possible donc pour un programme et un environnement donné, si et seulement si les deux fonctions sont les mêmes. Et tous ces résultats-là que je vous ai énoncés ont été vérifiés en coq. Donc vous n'avez pas besoin de me faire confiance, ça a été intégralement vérifié par la machine. Je vous ai présenté rapidement les sémantiques cohérentes et constructives, et maintenant je vais me concentrer sur les liens qu'il y a entre les deux. Donc la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la flèche ici est à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on va démontrer, c'est que si on a une transition dans la sémantique constructive, alors on a la même dans la sémantique cohérente, mais pas réciproquement. Mais c'était voulu. Le problème de la sémantique cohérente, c'est qu'on autorisait trop de programmes, donc on en a enlevé une partie. La preuve est ici très facile. La raison essentielle est que, à l'exception de la règle pour les signaux locaux, toutes les règles sont rigoureusement identiques, donc il n'y a vraiment rien à faire. Et pour la règle de signal, on va utiliser donc, le proverbe Esterel, qui va nous permettre de relier ce qui doit être fait à ce qui est fait effectivement, et en particulier de montrer que ce qui doit être fait est bien présent dans les signaux émis. Alors, donc, en fait, le plus gros du travail se trouve dans les propriétés qu'on a besoin de démontrer pour Mustekin, en particulier que si on a davantage d'informations en entrée, alors la précision de l'approximation qu'on fait est meilleure. Donc, on peut déduire qu'il y a davantage de signaux qui doivent être émis et qu'il y a davantage de signaux qui ne peuvent pas être émis, c'est-à-dire que dans les signaux qui peuvent être émis, il y en a moins. Ça, c'est utilisé en particulier pour être capable de connecter le calcul dans Must qu'on fait sans faire d'hypothèse sur le signal et l'exécution du programme à l'intérieur dans lequel on a attribué une valeur au signal. Donc, la relation qu'on a entre la sémantique cohérente et la sémantique constructive, c'est bien que de toute réduction dans la sémantique constructive, on peut aller à la sémantique cohérente. La sémantique par état, donc pourquoi est-ce qu'on va l'introduire ? La sémantique constructive a deux défauts. D'une part, les parties qui sont déjà exécutées dans le programme vont être effacées. Et d'un autre côté, quand on a une boucle, plutôt que vraiment exécuter la boucle, on va en fait la transformer en p.virgule loopé et exécuter le p qui est devant. Donc on a à la fois, en fait, on modifie le texte du programme, ce qui, du point de vue d'un circuit, n'est pas très réaliste. Et on ne peut pas se permettre de modifier les fils, d'en rajouter ou d'en enlever sur un circuit. Donc l'idée ici va être de corriger ce problème-là. Et donc la sémantique par état, c'est une étape intermédiaire qui va assurer que le programme sous-jacent ne change pas. Alors comment est-ce qu'on va indiquer l'exécution ? On va l'indiquer sur le programme, donc sur le code du programme qui ne change pas, en plaçant des marques. Donc des petits chapeaux comme ça que je mettrai au-dessus des termes qui nous diront où est-ce que le calcul s'est arrêté à la fin d'un instant. Comme le langage est parallèle, on pourra avoir plusieurs annotations en parallèle à la fois. Un autre point fort pour promouvoir la sémantique par état, c'est que les états qui vont être activés à la fin d'un instant vont exactement correspondre au point de vue des circuits aux registres qui seront activés. Le point faible, c'est qu'on va maintenant avoir besoin de deux ensembles de règles, un ensemble start qui va partir de programme inerte et un ensemble qui va partir de programme activé. Donc, quelle va être la syntaxe qu'on va utiliser pour ces programmes activés ? Donc, pour construire ça, on va partir de la syntaxe des programmes Esterel. Commençons par enlever tout ce qui est instantané, puisqu'on ne peut pas être en train d'attendre sur ce qui est instantané, c'est-à-dire nothing, emit et exit. Ensuite, quel est l'archétype du programme sur lequel on peut s'arrêter ? C'est pause. Donc quand on lui met un chapeau dessus, on va dire que le pause est activé. Et à partir de là, on va juste propager ces activations dans le reste de la syntaxe. Il y a deux subtilités. La première, c'est que pour le test, on ne peut pas être à la fois actif dans P et dans Q, puisqu'une fois qu'on a fait le choix, il n'y a qu'un seul des deux, une seule des deux branches qui sera active. Et de même, dans la séquence, on ne peut exécuter la seconde partie qu'une fois qu'on a terminé la première partie. Donc si la seconde partie est active, la première ne peut pas l'être. Et donc ce que je vais appeler un terme, donc je vais noter avec une barre, ce sera soit un état actif noté avec un chapeau, soit un programme inerte sans annotation. Pour comparer la sémantique constructive et la sémantique par état, je vais vous reprendre donc l'exemple de la règle if-then. Donc vous l'avez dans la sémantique constructive en haut. Et dans la sémantique par état, on voit que la différence, c'est essentiellement qu'on va conserver l'intégralité du programme. Ici, on gardait que le résultat de P. Ici, on va le replacer dans son contexte. Le fait d'avoir des termes dans lesquels on a une partie active et une partie inactive va nécessiter un nouvel ensemble de règles, donc pour resume, dans lequel on va dire que quand une partie est activée, on peut juste effectuer le calcul dans ce sous-terme-là, sans s'intéresser au reste. Reprenons notre exemple d'Abro. Donc, à gauche, la sémantique constructive, à droite, la sémantique par état. Et on va reprendre la même exécution exactement. Donc, si on reçoit B, à gauche, on n'a plus besoin d'attendre B, on attend toujours A. Ce qu'on matérialise ici en disant qu'on est toujours en train d'attendre sur le A, mais plus sur le B, la partie B est déjà inerte. L'instant d'après, on reçoit A, donc on va émettre O, puis s'arrêter sur le halt. Donc ici, on a effacé les parties qui ont disparu, Ici, on déplace juste la notation sur le Holt. On reçoit B, rien ne se passe. Lorsqu'on reçoit R, on efface tout, on remet tout à zéro. Donc on efface toutes les marques et on reprend depuis le début. On va les replacer sur A et B. Enfin, dernière étape, si vous recevez A et B en même temps, vous allez directement émettre O et attendre sur Alt. Donc c'est vraiment la même sémantique, elle est juste présentée de façon différente. Donc tout comme précédemment, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc comme précédemment, elle va préserver les signaux déclarés. Alors ici, afin d'être un peu plus compact, je dis une notation où j'ai dit à la fois pour start et resume, on part d'un terme donc qui est soit inactif, soit actif, et on utilise la bonne version. Mais donc ça permet d'exprimer le fait que les deux, de façon plus compacte, le fait que les deux sémantiques vont préserver les signaux déclarés. Elle préserve le programme sous-jacent. Donc ça, c'est intéressant, c'est la raison pour laquelle on l'a introduite. Donc quand on a une réduction, alors si on efface les annotations, donc A en entrée et en sortie, on réobtient le même programme inerte. Toujours, elle préserve la totalité. Le code de retour va être 1 si et seulement si le résidu est inerte. Donc là, on a pu corriger le problème qu'on avait avant dans la sémantique constructive, c'est-à-dire que si le code n'est pas 1, il n'y a plus rien à faire dans le programme, donc le résidu est exactement la base qu'on avait initialement. Elle est déterministe, donc, comme précédemment. Et enfin, pour pouvoir étendre la sémantique par état, pour étendre la sémantique constructive aux versions par état, on a besoin d'étendre must et can aux états actifs. Donc ça peut se faire par deux nouvelles fonctions, donc smust, scan. Et en fait, on peut montrer qu'elles sont reliées aux fonctions must et can initiales à travers une fonction d'expansion qui va en fait effacer toute la partie qui a déjà été exécutée. Et à travers ces égalitaires, on peut en fait obtenir les résultats pour smust et scan directement à partir de ceux sur must et can. Donc à nouveau, toutes ces propriétés-là ont été vérifiées en coq. Donc après cette présentation rapide de la sémantique par état, je veux également vous présenter le lien entre les deux. Donc notre objectif, c'est de montrer que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si on part d'un terme inerte, qu'on effectue une transition dans la sémantique par état, alors en partant du même terme inerte, dans la sémantique constructive, on obtient le même état où on a enlevé tout ce qui était déjà mort. Idem pour les programmes actifs. Donc si on efface, quand on a une transition à partir d'un programme actif, lorsqu'on efface les parties qui ne sont plus actives, on obtient une transition dans la sémantique constructive qui va nous donner la même chose en effaçant les parties mortes. La difficulté pour cette preuve-là, c'est qu'un terme et sa version expansée n'ont pas forcément la même structure, en particulier puisque l'expansion dans la sémantique constructive va rajouter des scories autour. Donc on ne peut pas exactement avoir le même terme, mais par contre, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va se comporter pareil. Donc pour exprimer cette idée de se comporter pareil, plutôt qu'avoir une égalité, on va utiliser la notion de bisimilarité. C'est-à-dire, deux programmes vont être bisimilaires s'ils se comportent pareil, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire les mêmes transitions, donc en produisant le même ensemble de signaux de sortie, le même environnement de sortie, le même code de retour, et deux programmes qui vont être à nouveau bisimilaires. Donc, ici, vous avez quelques exemples. Donc P est bisimilaire à P, point virgule nothing, ou à nothing parallèle P, puisqu'à nouveau nothing ne faisant rien. C'est convaincant, mais notez que si P ici contient une boucle, on n'atteindra jamais le nothing ici, donc on ne pourra pas utiliser la connaissance qu'on a que nothing n'a pas d'impact, pour pouvoir dire on peut l'éliminer. Il va systématiquement être présent, mais il n'aura pas d'impact. Les transitions qu'on est capable de faire entre P et P.nothing sont exactement les mêmes. Et également pour loop, on peut ainsi formaliser le fait que loop P, c'est la même chose que P.loopP ou que loop de P.P. Donc, in fine, ce qu'on va démontrer à la place, plutôt que les équivalences en haut, c'est le théorème en bas, c'est-à-dire si on a une transition par état, alors on peut avoir presque la même transition dans la sémantique constructive. La différence, c'est qu'on va avoir un nouvel état qui va être bisimilaire à ce qu'on avait ici. Donc là, il y a une version dans un sens pour la version résume de la sémantique par état. On a donc les trois autres. Mais dans l'ensemble, une fois qu'on est capable de faire cette correspondance de comportement, le reste de la preuve est assez facile et suit exactement le fait que les deux ensembles de règles ont exactement la même structure. Donc, ce que j'ai montré jusqu'à présent, c'est ce qui était exprimé dans le livre de Gérard Berry, donc la sémantique constructive des stérèles purs. Avant de passer à la sémantique micropage, je vais faire une petite parenthèse. C'est que la construction que je viens de faire, donc on passe d'une sémantique qui transforme les programmes à une sémantique qui ne les transforme pas, peut également se faire au niveau de la sémantique cohérente. Donc on peut tout à fait introduire une sémantique cohérente par état, qu'on pourrait prouver équivalente à la sémantique cohérente, et on pourrait prouver le même lien entre la sémantique constructive par état et la sémantique cohérente par état. Mais comme, à ce stade-là, vous devez être convaincu, ne serait-ce que par les cours que Gérard a fait précédemment, que la sémantique cohérente n'est pas forcément le bon point de départ, on va uniquement conserver la sémantique constructive. Et maintenant, je vais m'intéresser à la sémantique micropas. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire ici ? La sémantique par état nous donne une correspondance parfaite aux frontières entre les instants, c'est-à-dire que ce que nous donne la sémantique par état va exactement correspondre à ce qu'on a dans le circuit à la fin des instants. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux, comment le calcul se fait dans le circuit. Et de plus, elle triche un petit peu puisqu'elle utilise ces deux fonctions auxiliaires, can et must, qui ne sont pas présentes dans le circuit. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant avec cette idée de la sémantique micropas, c'est être capable d'expliquer ce qui se passe dans un instant, à un niveau de précision qui soit suffisant pour atteindre exactement les portes logiques, et ça va être effectivement une part difficile du travail, d'être capable de s'affranchir de Mustekhan. Alors, à partir de maintenant, il va y avoir quelques limitations. Donc, d'une part, par rapport au circuit, je ne vais pas considérer les fils pour les signaux. Ce ne serait pas très difficile, mais ça introduit beaucoup de fils qui n'apportent pas grand-chose, donc on va garder les environnements d'entrée. Le synchroniseur pour le parallèle, je vais le voir comme une boîte noire. Donc, plutôt qu'utiliser son implémentation et raisonner dessus, je vais directement raisonner sur ses spécifications. Alors, plutôt qu'une limitation, c'est presque un avantage, dans le sens où on peut voir ici quel serait le synchroniseur idéal et vérifier que qu'est-ce qu'on peut en déduire si on a un synchroniseur idéal, et on pourra ensuite vérifier que le synchroniseur tel qu'il a été conçu par Georges Gontier correspond bien à cette spécification. Et enfin, la vraie limitation de partir de maintenant, c'est le fait que je ne veux pas traiter la réincarnation, parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à gérer maintenant, donc je vais supprimer la construction de boucles dans le langage. Donc l'intuition, ça va être de garder la structure des programmes, puisque l'inconvénient des circuits, c'est qu'on n'a plus que des portes, on n'a plus aucune structure, donc je veux garder la structure qu'on trouve sur les programmes pour pouvoir faciliter le raisonnement. La propagation d'électricité dans un circuit, ça correspond en fait à stabiliser les valeurs des fils. Donc d'une certaine façon, on va augmenter l'information qu'on a dans le circuit en déterminant, en franchissant chaque fois une porte, l'électricité va stabiliser un fil supplémentaire. Donc on va vouloir que nos règles augmentent l'information qu'on connaisse sur le programme. J'ai dit qu'on voulait uniquement se concentrer à ce qui se passe à l'intérieur d'un instant, donc en particulier, on ne franchira jamais un pause. On partira de la fin des pauses actifs, et on ira jusqu'au début des pauses qu'on va activer, mais on ne fera jamais cette partie d'activation. Alors l'intérêt de se limiter à ça, c'est qu'on va pouvoir restreindre davantage le calcul qu'on fait, et on verra que ça permettra également de simplifier les règles. Enfin, si on regarde les façons dont le circuit fonctionne, les circuits générés depuis la traduction, il y a trois phases essentielles. Une phase start qui correspond à faire le transfert de contrôle, donc votre circuit a certaines entrées, il va faire certains calculs pour le transférer à ses sous-circuits, puis les sous-circuits vont faire leurs propres calculs, produire des résultats, et enfin, vous allez combiner les résultats ensemble pour produire les résultats du circuit global. Alors évidemment, dans un circuit, les choses ne sont pas aussi bien ordonnées, et tout se passe un peu en même temps. Mais ça nous donne quand même une idée sur quelle va être la forme générale de ces micro-états. On va avoir une entrée qui sera représentée par un carré, une partie qui va correspondre au sous-circuit qui correspondra en fait au code source, enfin au texte du programme, et enfin une partie pour les sorties. Donc pour arriver à définir soigneusement qu'est-ce qu'on va voir en entrée et en sortie, repartons de la traduction en circuit. Donc vous avez là ici la structure globale d'un circuit. À gauche, vous avez les ordres qu'on peut donner au circuit, et à droite, ce que vous calculez les sorties, avec leur sens en dessous ici. Parmi toutes ces ordres, ces entrées et ces sorties, en fait, il y en a certaines qui ne vont pas être utiles pour nous pour la partie de calcul qu'on fait à l'intérieur d'un instant, en particulier kill et sell. Pourquoi ? Parce que la partie kill permet en fait de tuer les parties du programme qu'on va devoir interrompre parce qu'il y a eu une exception autour. Donc, et même si on regarde dans le circuit, en fait, on voit bien que les effets du fil kill, c'est exclusivement sur les registres des pauses, avec un petit peu de calcul, soit au niveau du trap, soit au niveau des parallèles, suivant comment on veut le gérer. Mais l'effet, c'est vraiment uniquement au niveau des pauses. Et comme cette sémantique micropas ne va pas faire les mises à jour, on n'a pas besoin de le considérer. De la même façon, le seul rôle de celle, c'est d'être capable de savoir qu'est-ce qui a un chapeau, qu'est-ce qui n'a pas de chapeau, c'est-à-dire quelles sont les parties actives et inactives du programme. Mais ça, on le sait directement depuis la sémantique par état, donc on n'a pas besoin de le recalculer. Donc on peut également supprimer celle. Alors en fait, on ne peut pas complètement supprimer celle parce qu'il est utilisé dans le synchroniseur. Donc si je reprends la traduction du parallèle, donc vous avez ici le synchroniseur, et on voit qu'effectivement, le fil cell de P va entrer dans le synchroniseur, et de même, le fil cell de Q va entrer dans le synchroniseur. Donc on ne peut pas complètement s'en affranchir. Alors en fait, je pense que utiliser les fils cell ici, ça correspond davantage à une optimisation, il est probablement possible de faire une version du synchroniseur sans cette optimisation, et donc on pourrait avoir une version où on n'a pas de dépendance, mais vu que les circuits sont faits comme ça et que c'est beaucoup plus efficace, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir en tenir compte. Donc ce qu'on va faire, on va supprimer kill, mais garder cell, simplement avant de le considérer comme une entrée. Donc la forme des micro-états, donc on a entrée, sous-circuit, sortie. Les entrées vont correspondre aux trois fils qui nous restent, donc go, res et susp. Le programme va être une partie qui va juste donner la structure pour savoir quels sont les types de raisonnements qu'on peut faire dessus. Ce sera globalement inerte, excepté pour les parties structurelles, donc les sous-programmes qui auront eux-mêmes leurs propres entrées et leurs propres sorties. Et c'est là qu'on va mettre à la valeur du fil cell. Sachant que ça va être une constante, ça ne changera pas au cours du calcul. Les sorties, vu qu'on a enlevé celles, il ne reste plus que les codes de retour. Et on va utiliser le fait que ces codes sont utilisés sur un codage one-hot, c'est-à-dire qu'il y a au plus un des fils qui va être à 1, et on va encoder ça explicitement dans la représentation qu'on va faire. Donc on va avoir un jeton noir lorsqu'on sait qu'un des fils est à 1 et son indice sera noté ici, K. Et lorsqu'on n'a pas encore de fil à 1, on sait qu'on a un ensemble de fils qui sont encore indéterminés. Les autres fils ont déjà été mis à 0, et donc l'ensemble des fils qui va être indéterminé, ce sera noté donc, dans un ensemble K avec un jeton blanc. Alors l'intuition ici, c'est que ces deux constructions-là vont correspondre au calcul de Must et de Can. C'est-à-dire que si Must dit on doit renvoyer le code 3, par exemple, ça signifiera qu'on sait que la valeur du fil 3 va être 1. Donc on peut déjà éliminer toutes les autres, elles seront 0. A l'inverse, le rôle de Can, c'est de pouvoir dire « Ah, je sais déjà que les fils 4, 5 et 6 ne seront pas émis, ils vont être à 0. » Et donc, dans ce cas-là, on pourra les retirer de cet ensemble-là. Enfin, la dernière idée, ça va être d'utiliser, comme je le disais, on veut augmenter l'information, donc on va avoir un ordre qui permet de comparer des états en fonction de leur information. Donc, sur les entrées, ce sera composante par composante, donc chacune, donc go, res et susp séparément. En sortie, dire que un jeton blanc avec K contient moins d'informations que le jeton avec L, ça revient à dire qu'on a réussi à éliminer davantage de codes de retour ici, donc que l'ensemble des codes qui pourraient être 1 est plus petit que celui dans K. Que K. Lorsqu'on a un fil qui a 1, il fallait vérifier qu'il y avait bien le droit d'être à 1 dans K ici, donc le petit K appartient au grand K. Et enfin, lorsqu'on a deux fils à 1, c'est forcément les mêmes. Ils doivent forcément être les mêmes pour qu'on puisse comparer, pour que les deux informations soient compatibles entre elles. Les micropas. Donc, un micropas, ça va prendre un micro-état, faire une transition vers un nouveau micro-état. L'idée va être de mettre à jour les entrées et les sorties jusqu'à atteindre l'information maximale, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'inconnus dans le circuit. Donc, en entrée, ça revient à dire que les fils go, res et sus vont avoir une valeur qui sera différente de bottom. Et en sortie, c'est atteindre quelque chose qu'on ne puisse plus faire augmenter. C'est ou bien on a un fil à 1 et il vaut K, dans ce cas-là on sait que tous les autres fils sont à 0, ou bien il n'y a aucun fil à 1, c'est-à-dire que l'ensemble des fils qui peuvent être à 1 est vide, donc tous les fils sont à 0. Ça va arriver pour les parties du circuit qui ne seront pas exécutées en particulier. De plus, on arrive à un niveau de granularité qui est trop fin pour que la notion de signal émis ou de code de retour ait du sens à chaque transition. Donc en particulier, on n'aura plus, on voit ici dans la transition, on n'a plus que l'ensemble, l'environnement d'entrée, on n'a plus d'environnement de sortie ou de code de retour. Et en fait, les codes de retour pourront être lus depuis les sorties et les signaux seront gérés par les règles de signal. Et donc en particulier, on va remplacer l'utilisation de must et can par la lecture du micro-état, donc l'état dans lequel on est, les calculs qu'on a fait jusqu'à présent. Et donc on pourra dire en particulier que S est émis si et seulement si il y a un émetteur qui a été activé, donc on verra que ça correspond à dire qu'on a un signal go devant un emit S qui renvoie 0. Donc comment est-ce qu'on va connecter cette sémantique-là avec la sémantique par état? Donc si on part d'un état, on va avoir une première fonction qui va nous transformer ça en un micro-état. Ce micro-état, comme on part d'un état, on va activer red, donc ça correspondra au carré vert plein. On aura une séquence de transition dans la sémantique par micro-état pour obtenir un nouveau programme et un code de retour avec une valeur donnée, donc un fil à 1. Et une fois qu'on aura cette information totale, on pourra reconvertir ça en un état. Donc notez qu'ici, on va pouvoir replacer les deux fils qu'on avait supprimés, cell et kill. La sélection va se faire par la fonction ici, qui va, en prenant l'information qu'on voit dans le terme, nous dire quels sont les sous-termes qui vont être sélectionnés et lesquels ne le seront pas. Et réciproquement, la partie kill se fera en disant « Ah, ici j'ai un parallèle, une branche va tuer l'autre. » Et donc le kill se fera au moment de reconstruire l'état. Donc au moment où on quitte la partie micro-état pour rejoindre la partie état. Donc quelles vont être les règles pour IFzen? Donc pour construire ces règles-là, on va partir de l'intuition des circuits. Donc ici je vous donne la traduction du IFzen else. Et pour comprendre à quelque chose, on va mettre des couleurs. Donc le circuit global, les entrées et sorties seront en vert. Pour P, ce sera en bleu. Et pour Q, ce sera en marron. Et on va s'intéresser en particulier à cette porte E ici. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si on prend la valeur de S et le signal go vert, on peut calculer le signal go bleu. Et c'est exactement ce que va faire la première règle en haut. Donc si on regarde l'information qui est go bleu, si on a moins d'informations que le go vert et B, qui est la valeur de S dans E, alors on peut mettre dans bleu la valeur de go à jour. Donc ça correspond exactement à franchir cette porte E. La deuxième règle, donc ça va être les règles de contexte, qui vont nous dire si on a une transition dans P possible, alors on peut la faire en ignorant tout ce qui se passe autour. Et enfin, les dernières règles vont être, en prenant l'union des codes dans P, on peut améliorer l'information qu'on a sur le programme complet, alors on peut faire la mise à jour. Et donc ça correspond aux portes OU qu'on a ici. Donc on prend les sorties pour P, les sorties pour Q, on les combine pour obtenir les sorties sur le programme global. Alors pour illustrer ça, je vais reprendre à nouveau toujours le même programme Abro et vous expliquer comment est-ce que toutes ces choses-là se déroulent. Alors je vais faire moins d'étapes puisque c'est beaucoup plus bas niveau, donc il se passe beaucoup plus de choses. Donc ici j'ai donné la version un peu plus étendue de l'environnement, donc on voit qu'on a 4 signaux A, B, R et O. Et seul le signal B est présent, le signal O, en fait, n'étant pas lu, peut avoir une valeur quelconque. Donc ici, j'ai laissé bottom. La première chose à faire, c'est traduire le programme en un micro-état. Donc ici, on part d'un état qui est inerte, on traduit ça en un micro-état. Donc cette partie-là est complètement statique et utilise uniquement l'information, la structure du programme. Donc par exemple, ici, on sait que await peut renvoyer soit 0, soit 1. Idem pour le await B. Du coup, on a un parallèle qui a soit 0, 0, 1, 0, 1, donc il peut lui-même renvoyer que 0, 1, et ainsi de suite. Donc toutes les valeurs qu'on voit ici donc, sont forcément qu'en blanc, mais on a pu éliminer un certain nombre de codes qui sont statiquement pas possibles. Donc en termes de circuit, ça signifie que toutes les valeurs qu'on ne voit pas ici sont des fils qu'on n'a pas besoin de mettre, puisqu'on sait qu'ils seront systématiquement 0. Ensuite, on va exécuter ce micro-état, donc on commence par mettre la première entrée, à lancer le programme. Donc on sait que cell est faux, mais go est à vrai. À partir de là, on va commencer à propager toutes les entrées. Donc on peut commencer par le propager dans la boucle, puis dans le abort. Mais en fait, on n'est pas obligé de suivre ce chemin par les entrées. En particulier, on peut observer que A étant absent, on sait qu'ici, on ne va pas pouvoir terminer. Donc on peut directement éliminer le 0 et dire il ne reste qu'un 1. De la même façon, R est absent, du coup ici, le abort ne peut pas interrompre le programme et terminer, il ne peut que renvoyer le code ici qui est 1. Donc on peut également retirer le 0. Ensuite, on va reprendre la propagation depuis les entrées. Donc on propage toujours notre signal go. Il va atteindre await A. Comme A n'est pas présent, il ne peut renvoyer que 1. À ce moment-là, on sait qu'on a un 1 qui rentre dans un parallèle. Donc du point de vue du synchroniseur, on sait qu'à la sortie ici, on ne pourra pas émettre 0. Donc on peut directement éliminer ce 0 et il ne nous reste donc plus qu'un 1. Ça, c'est une conséquence importante. C'est-à-dire qu'ici, dans la première partie de cette séquence, on sait qu'on ne peut pas renvoyer 0. Ça signifie que la seconde partie de la séquence ne sera pas déclenchée. Donc on peut directement dire, la seconde partie, Go va être 0. Et donc cette seconde partie ne sera pas du tout exécutée. On peut propager cette information-là dans la suite. Donc le emit O ne sera pas exécuté. Donc il va avoir un ensemble, tous les fils vont être à 0. Du coup, à nouveau, la séquence, on n'a pas de 0, donc la suite ne va pas être exécutée. À nouveau pour Alt, et donc toute cette séquence n'est pas exécutée. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que même si on n'a pas terminé l'exécution du parallèle, on a quand même été capable d'éliminer toute la partie qui suit la séquence. Donc si ensuite on reprend l'exécution de B ici, comme B est présent, on va renvoyer 0. Maintenant, notre synchroniseur a deux vrais fils, on peut effectivement calculer le max, on va effectivement obtenir 1. La séquence entre 1 et une partie qui n'a pas été exécutée va nous donner 1. On pourra propager ensuite au abort et à la boucle. Donc in fine, voilà la décoration finale pour ce premier instant. On peut ensuite s'intéresser à quelle est la valeur on va avoir, quels sont les signaux qui vont être émis. Donc pour ça, on va regarder les émetteurs qui restent dans notre état. Donc ici, on n'a que émit O, et on voit que cette partie-là n'a pas été émise, donc le signal ne sera pas émis. Ensuite, on peut regarder les points sur lesquels on est en train d'attendre la fin de l'instant. Donc on a le await A ici, on est à 1, et également, comme abort est en fait un codage, on a également 1 qui est caché dans le when, ce qui va nous permettre de dire que les chapeaux qu'on devra placer pour obtenir le terme à la fin de l'instant vont être sur le await et sur le when ici. Intéressons-nous maintenant à un second instant, donc c'est le même qu'avant, c'est-à-dire que cette fois-ci, A est présent, B, R est absent, et à nouveau, O n'a toujours pas d'importance. Donc ici, la première chose à faire, c'est qu'on part d'un état actif, donc il faut calculer celle. Donc je vais vous mettre ici les parties en bleu sont les parties actives. On repart du même programme statique. Simplement, cette fois-ci, on ne va pas mettre un go, on va mettre un resume pour reprendre le calcul. Donc ça va être un carré vert plein. Donc histoire d'aller plus vite, là maintenant je vais suivre un parcours qui sera un peu plus rapide, mais à nouveau, on pourrait faire le calcul dans un désordre complet. Donc on va propager ce res jusqu'au await, qui était actif. Comme A est présent, le programme va terminer. Donc ici, Pour B, on propage res, mais go est faux et le programme n'était pas actif. Donc ça signifie que cette partie-là ne va pas être exécutée. Et effectivement, à l'instant précédent, on avait déjà récupéré B, donc on ne veut plus réexécuter cette partie-là. Ensuite, les deux codes vont être 0 pour A, puisque A est présent, et on ne va pas avoir de code de retour puisque cette partie n'est pas exécutée. Dans le parallèle, le max va nous donner un 0. Comme ici, on a un 0, la première partie de la séquence a terminé, donc on peut transmettre le contrôle avec un go à la suite, qui va faire exécuter l'emit O. À nouveau, on a un 0 dans une séquence, donc on va à nouveau avoir un go qui va donner alt. Donc là, cette séquence va être 1, et ensuite on propage jusqu'à la fin. À nouveau, maintenant reprenons et intéressons-nous à savoir quels sont les signaux émis. Donc on regarde à nouveau O. Ici, on voit qu'on a un go et il a effectivement envoyé 0, donc il a été exécuté. Donc cette fois-ci, le signal a été émis. Enfin, si on regarde les endroits dans lesquels on a fait une pause, on a fait une pause dans Alt et à nouveau dans le When. Donc le nouvel état à la fin sera celui-ci. Donc remarquez que c'est exactement ce qu'on avait avant dans la sémantique par état. La seule différence, c'est qu'ici, on a quelque chose qui est à un niveau de granularité qui correspond vraiment aux portes logiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sémantique-là? Elle préserve les signaux déclarés. Est-ce qu'elle préserve les signaux déclarés? Ça n'a pas vraiment de sens, puisqu'on n'a plus vraiment de signaux émis. On n'a plus qu'un ensemble de signaux d'un environnement d'entrée. Ce n'est pas complètement vrai, puisque je vous ai dit qu'on pouvait les relire à partir du micro-état. Donc, on peut quand même exprimer le fait que les signaux qui apparaissent dans ce qu'on relie vont exactement correspondre, vont être les mêmes que ceux qu'on peut lire. Elle préserve le programme sous-jacent, donc d'une part, si on efface toutes les annotations, les entrées et les sorties, le code source ne change pas, mais comme on veut aussi faire la connexion entre la sémantique par état et la sémantique par micro-état, on a également le fait que les conversions de l'une à l'autre préservent les programmes, le code source sous-jacent. Comme on n'a pas de code de sortie, les questions de totalité ne s'intéressent pas. On n'a plus de code de retour non plus. La sémantique est clairement non déterministe, parce qu'on l'a vu dans le premier état, j'ai choisi un certain ordre, on peut sauter à d'autres endroits pour exécuter le calcul. Et on n'a plus de Mustekhan, donc à nouveau, la question ne se pose pas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant ? Cette sémantique est non déterministe, mais elle est confluente. Donc le non-déterminisme est ici inoffensif. Donc ce que ça signifie, c'est que si on a un programme P qui peut faire deux transitions pour obtenir P1 et P2', alors on est capable de clore le diagramme, c'est-à-dire de faire d'autres transitions jusqu'à obtenir un même programme final. Alors, les spécialistes reconnaîtront que ça, c'est la semi-confluence, mais comme dans le cas dans lequel on est, on peut avoir la confluence totale. Donc, quelle que soit la suite d'exécution qu'on fait, on est toujours capable de rejoindre. Ça nous dit qu'en fait, le résultat est unique. C'est-à-dire que quand on est capable de faire du calcul, s'il y a un résultat, ce sera forcément le même. Les entrées ne changent pas. Donc, si on, entre le micro-état de départ et d'arrivée, on n'a rien dans notre circuit qui permet de calculer les entrées, de les modifier, donc elles ne vont pas changer. On est effectivement à un niveau suffisamment fin pour qu'il n'y ait qu'une seule valeur qui change, c'est-à-dire que dans les calculs qu'on fait, ou bien on fait un changement à l'intérieur, auquel cas les sorties n'ont pas changé, ou bien on calcule les sorties, mais dans ce cas-là, c'est les parties, les sous-programmes qui n'ont pas changé. Donc les modifications qu'on fait sont vraiment très localisées. On n'a plus de phénomène global comme on avait un peu avant. Chaque transition augmente l'information qu'on a en circuit, donc on stabilise un fil de plus. Donc à chaque fois, selon l'ordre d'information, on augmente strictement l'information qu'on a. On a certaines règles de compatibilité avec l'information, c'est-à-dire que si on a une transition en faisant dans un certain environnement, si on augmente la connaissance qu'on a sur les signaux, alors on peut faire exactement les mêmes transitions. Tout simplement, on va ignorer le fait qu'on ait des informations supplémentaires. On a la même chose pour les signaux d'entrée, c'est-à-dire que si on a une entrée qui est moins définie qu'une autre et qu'on fait une transition, alors on est capable de clore le diagramme à nouveau. Par contre, ici, ça ne se fait pas en une seule étape parce que l'augmentation d'information ici peut avoir des conséquences sur la règle qui a été utilisée là. On ne crée pas de 1 dans le circuit, c'est-à-dire si vous mettez au départ rien qui soit à 1, alors la seule chose que vous pouvez produire, c'est que des fils à 0. Et ça, en fait, ça peut directement se voir sur le circuit. C'est-à-dire, si vous regardez la traduction, la seule façon, si vous avez des zéros en entrée pour obtenir un 1, c'est d'avoir une porte non. Et les seules portes non qui apparaissent dans la traduction sont en entrée d'une porte E. C'est très souvent pour les signaux, notamment pour le test. Mais à chaque fois, vous avez un autre fil qui va être à 0 et va tuer le 1. Donc, quand on n'a que des zéros en entrée, on ne produit que des zéros en sortie. Et donc ça, c'est ce que dit ce résultat-là. Et comme précédemment, tous ces résultats-là ont été démontrés en Coq. Donc maintenant que j'ai fini la description et j'espère avoir transmis le sens de la sémantique par micropas, maintenant je vais m'intéresser au lien qu'on a entre la sémantique par état et la sémantique micropas. Donc ce qu'on cherche à démontrer, c'est ce résultat-là. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que si on part d'un programme inerte, qu'on fait une transition non-start dans la sémantique par état, alors on va être capable de trouver un micro-état, tel que si on part du programme inerte, qu'on lui met un go, après un certain nombre de calculs, on arrive à atteindre quelque chose qui a un code de final K et qui va s'avérer être le même qu'ici. Et si on convertit notre micro-état final en un terme, en un résidu et en un événement, on retrouve bien ce que la sémantique par état nous disait. Et de même, ici, quand on part d'un état, on a exactement la même chose. La seule différence étant que cette fois-ci, on ne met pas un signal go, mais un signal res pour reprendre l'exécution. Alors ça, c'est le sens facile de l'équivalence, puisqu'on a au départ quelque chose qui est suffisamment gros grain, et on a le droit de choisir tous les micropas qu'on va vouloir faire. Donc en pratique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre l'intuition que j'avais donnée, où on découpe le calcul du circuit comme propagation des entrées, calcul dans les sous-circuits, et combinaison des sorties. La difficulté, c'est d'être capable, c'est donc la correspondance entre Mustekhan et ce qu'on utilise pour donner les valeurs des signaux donc, dans les signaux locaux. Donc c'est le lien entre Mustekhan et cette fonction toEvent. Donc en particulier, ce qu'on va dire, c'est que chaque fois qu'on a un signal qui doit être émis, alors lorsqu'on lance le programme, on va atteindre un certain micro-état qui contient suffisamment d'informations pour déduire que, effectivement, le signal a été émis. Symétriquement, si on a un signal qui ne peut pas être émis, Alors, on a un certain nombre d'étapes, en partant de l'état initial, après un certain nombre d'étapes, on atteint un état dans lequel on sait que le signal ne va pas être émis. Chose surprenante, ce n'est pas suffisant, il faut aussi qu'on soit capable de considérer les signaux qui ne sont pas émis, quel que soit, enfin, indépendamment du fait que le programme va être exécuté ou non. Donc, à quoi ça correspond dans les micro-états? Ça correspond qu'initialement, quelle que soit la valeur des entrées, on arrive à atteindre un état dans lequel le signal ne peut pas être émis. Donc ça, c'est la partie pour les signaux. Mais on a également les mêmes implications pour les codes de retour. Et enfin, la même chose pour les états. Donc au total, ça nous fait un très grand nombre de propriétés. Et comme la définition de Mustekin est mutuellement récursive, il faut les démontrer 6 par 6. Donc vous avez le paquet de 6 pour les programmes inertes et le paquet de 6 pour les états. Donc dans l'ensemble, ça demande, enfin c'est des preuves assez massives puisqu'il y a beaucoup de choses à démontrer à la fois. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la réciproque? La réciproque, ben, elle est beaucoup plus compliquée. Alors, quelle est la difficulté? C'est qu'on ne sait absolument rien sur les micro-états. C'est-à-dire qu'on a ici un circuit avec des valeurs, avec des fils qui ont des valeurs soit inconnues, soit 0, soit 1. Mais on n'a a priori pas d'informations sur le sens de ces 0 et ces 1. En particulier, rien ne nous dit que les valeurs qu'on va mettre autour d'une porte vont être cohérentes. Donc si on a deux fils, deux zéros en entrée d'un et, on ne veut pas avoir un 1 en sortie. Et de plus, on ne sait pas à quel point on va être capable, jusqu'à quel point on pourra mener l'évaluation. Donc pour être capable de contraindre davantage les micro-états qu'on va considérer, on va introduire un invariant. Donc un invariant de bonne coloration, qui va avoir deux fonctions essentielles. D'une part, d'imposer des invariants locaux qui vont effectivement correspondre au comportement des portes. Donc la sortie d'une porte E ne peut pas contenir davantage d'informations que le E des entrées. En particulier, si les deux entrées sont inconnues, le résultat ne peut pas être connu. Mais également, on va permettre de déduire des invariants globaux sur la traduction, en particulier que dans la séquence et dans le test, les fils de sélection des deux sous-termes ne peuvent pas être vrais en même temps. Donc voici un exemple d'invariant, donc je ne vais pas détailler, mais c'est pour vous donner une idée de ce que ça donne. Donc c'est celui pour S. On a des choses qui vont parler donc, du signal, de ce qu'on a le droit de faire sur les valeurs des fils d'entrée, le fait qu'on a deux portes qui transmettent le contrôle, les autres fils sont transportés tels quels, la sélection sont bien exclusives et on a au moins l'un des deux si le fil global et le circuit global est sélectionné, des contraintes sur la sortie. Donc la sortie du ifs and else ne peut pas contenir davantage d'informations que le OU des deux sorties, et ça contient au moins l'information qu'on connaît statiquement, et les deux appels récursifs. Donc dans l'ensemble, avec ces informations-là, avec ces invariants-là, on est capable de contraindre suffisamment la forme des micro-états qu'on va considérer. Et donc, ce qui nous permettra en fait de démontrer la réciproque. Donc, au final, ce qu'on démontre, c'est que si on a un programme inerte P, un certain micro-état P' qui contient davantage d'informations que l'état de départ duquel on commence quand on fait le calcul par micro-état, qu'on a fini le calcul dans ce micro-état, on ne peut pas faire plus, et qui satisfait bien tous ces invariants, alors on est capable de construire une transition dans la sémantique par état, et elle va bien correspondre à ce que nous dit le micro-état, c'est-à-dire que le code qu'on a ici est bien le code qu'on peut lire depuis le micro-état, pareil pour l'ensemble des événements de sortie, des signaux de sortie, et le résidu. Et donc cette preuve est toujours en cours, et comme précédemment, comme dans toutes les preuves précédentes, la difficulté est sur le lien entre must-can et le calcul tel qu'il se passe dans le circuit. Donc, ce qu'on a maintenant donc entre la sémantique par état et la sémantique micro-pas, c'est ce sens d'équivalence. L'autre sens est en cours, en bonne voie, mais n'est pas encore terminé. En conclusion, donc pour revenir rapidement sur les trois sémantiques sur lesquelles je me suis essentiellement attardé, la sémantique constructive, la sémantique par état et la sémantique micro-pas, ce qu'on peut en dire, c'est que la sémantique constructive, elle correspond en fait à la forme habituelle qu'on a quand on fait de la sémantique des langages de programmation. En particulier, elle va être assez pratique quand on voudra faire du raisonnement sur des programmes. Elle contient assez peu de règles, mais son défaut, c'est qu'elle réécrit le programme. Donc pour corriger ça on a introduit la sémantique par état, dans laquelle l'exécution se fait par marquage de termes. Elle a un lien très fort avec les états stables des circuits à la fin des instants. Par contre, elle vient de dupliquer le nombre de règles. Enfin, la sémantique micro-pas. Donc, c'est une sémantique qui est beaucoup plus bas niveau, puisque les règles qu'on utilise ne parlent que de transition à travers une porte ou d'une sortie à l'entrée consécutive. Donc, elle est très proche des circuits. On n'a plus besoin de KNMS. On peut intégralement le faire en utilisant uniquement l'information disponible dans le circuit. On n'a à nouveau plus qu'un seul ensemble de règles. Par contre, on a beaucoup plus de règles. On a une cinquantaine. Alors, il y a des petites variations suivant. On a plusieurs choix techniques qu'on peut faire qui font varier très légèrement le nombre de règles, mais c'est toujours de l'ordre de la cinquantaine. Et pour l'instant, on n'a pas de traitement des boucles et de la réincarnation. Et donc, comme conclusion sur l'utilisation de Coq sur ces deux années pour ce projet, donc il y a vraiment eu deux grandes phases. La phase facile, où en fait on a fait essentiellement la formalisation de ce qui était déjà bien connu et bien décrit dans le livre La sémantique constructive des stérèles purs. Donc dans ce cas-là, c'était essentiellement traduire dans Coq, il n'y a pas eu de vraie surprise. Il y a eu quelques coquilles qui avaient été oubliées dans le livre, que j'ai pu corriger, mais rien de majeur. Par contre, pour la sémantique micro-pas, là, le travail est beaucoup plus important, puisqu'il s'agit à la fois d'ajuster une sémantique, puis l'ajuster, enfin, d'inventer, puis de l'ajuster au fur et à mesure. Alors je dis bien une bonne sémantique et pas la bonne sémantique, puisqu'à nouveau, il y a plusieurs choix techniques qui intuitivement donneront la même chose, mais qui techniquement, quand on est dans un système de preuve, peuvent avoir des grosses conséquences. Donc il faut bien choisir ces définitions. Et donc c'est à chaque fois, c'est un processus itératif qui peut prendre pas mal de temps, puisque au moment où on se rend compte qu'il y a tel petit cas dans un coin qu'on n'avait pas envisagé, il s'agit de faire une grosse modification qui risque d'impacter pas mal de choses. Donc dans l'ensemble, pour ce projet, l'intérêt de Coq, c'est d'une part, comme disait Gérard, de vérifier les preuves, mais aussi et peut-être surtout de comprendre tous les détails, en particulier des choses qui sont un peu fines et qui ne sont pas évidentes quand on regarde juste du côté intuitif en raisonnement humain, en particulier le synchroniseur du parallèle. On est capable de spécifier exactement ce dont on a besoin pour propager au maximum d'informations. Donc c'est ce que j'ai fait en fait dans ma sémantique micro-pas. Je ne définis pas le synchroniseur. Enfin, il est défini mathématiquement comme une spécification qui permet de propager le maximum d'informations. Et ensuite, on peut comparer que l'implémentation par Georges Gontier correspond bien à cette chose-là. Je vous remercie de votre attention.